Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Moi, j'adore ne pas savoir faire. Et j'ai souvent même ce sentiment d'imposture que je dois dépasser parce que si on se pose la question de pourquoi moi plutôt qu'une autre, un autre, la réponse c'est toujours non, en fait, il y a quelqu'un de mieux que toi, le fais pas. Je crois qu'il faut se dire voilà, je le fais, c'est moi ou ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais j'essaye, j'ai pas grand chose à perdre. Je crois que les seules cases qu'on peut cocher, c'est celles qui nous ressemblent, mais c'est pas si simple. Parce que dès que ce que tu veux, ce à quoi tu aspires, ne correspond pas à l'idée générale, il faut se battre un peu plus.
Ne pas savoir faire, expérimenter, prendre les choses à la légère pour qu'elles soient supportables, essayer de mettre en lumière ce que l'on ne voit pas assez souvent, les faire poser devant l'objectif et créer des mises en scène du réel, parce qu'il n'a peut-être de sens que dans cette réinvention. Tout est fiction dès lors que l'on choisit un angle, un cadre, dès lors qu'il y a un champ et un hors-champ, un mot plutôt qu'un autre. Documenter le monde avec ce prisme imaginaire, et croire qu'il est juste assez grand pour tout ce qu'il y a à faire dedans. Ce sont les mots de Sandra Rinflet. Après 5 ans d'études et 2 ans de vie active, elle choisit de tout quitter pour faire connaître un monde où l'enthousiasme et la détermination peuvent changer les choses. À travers l'art, ses photographies, ses livres et ses documentaires, Sandra nous amène à vivre nos rêves plus qu'à rêver d'une vie. Inventeuse d'histoires vraies, c'est comme ça qu'elle se décrit. Je suis heureuse de vous partager aujourd'hui son parcours et ce fabuleux voyage au cœur de l'humanité. Salut Sandra.
Bonjour.
Je suis ravie d'être accueillie chez toi à côté de Paris. On n'est pas vraiment à Paris.
Non, on est à 400 mètres, mais c'est quand même un peu un autre monde.
On est dans ta belle maison lumineuse avec plein de livres autour.
Maison, t'exagères un peu, mais un appart, quoi. J'aimerais bien, hein. On est en haut.
Alors Sandra, j'adore la façon dont tu te présentes. Tu te décris comme inventeuse d'histoires vraies. Mmh. Et ces histoires, tu les racontes de différentes manières, donc tu vas nous expliquer comment. Mais j'aimerais, comme pour tous mes invités, qu'on commence par revenir à la petite fille que tu étais. Et quand tu étais petite, je crois que tu disais que tu voulais être chanteuse, écrivaine, photographe, voyageuse. Et tes parents, ils te répondaient « c'est super, mais tu trouveras aussi un vrai métier ».
En terminale, ils m'ont envoyé voir un conseiller d'orientation qui a choisi un peu pour moi. Parce qu'ils m'ont dit « voilà, c'est pas un vrai métier ». Et à ce moment-là, j'avais pas la force justement de caractère, je crois, de dire « si, je sais ce que je veux faire ». J'ai suivi un peu leur proposition d'aller voir un conseiller et qui m'a dit « bah vous, vous êtes forte en langue, vous aimez voyager, vous êtes sociable, faites une école de commerce ». Parce qu'il m'a confirmé que ce que je voulais faire n'était pas un vrai métier. Et je l'ai fait parce que mes parents étaient emballés par l'idée, que j'avais un peu ce côté première de la classe, je pense, et qu'on m'avait promis que je partirais un an à l'étranger, ce qui, chez moi, suffisait à faire sauter toutes les barrières parce que j'avais peu voyagé, en fait, petite. Mes parents étaient très angoissés par l'extérieur, par l'inconnu, et j'ai eu une enfance très cadenassée, au fond. J'ai grandi dans une petite ville dans le Maine-et-Loire. Et mes parents, c'était les médecins de la ZUP. Donc, nous, on avait une petite maison au milieu de la cité. Eux avaient peur et du coup, ils ne me laissaient pas sortir. Et c'est vrai que j'ai passé mon enfance à rêver d'aller voir ailleurs, à me dire, mais ça a l'air génial, ces gars qui boivent des 8-6 et qui fument des joints dans l'arrêt de bus. Moi, je veux aller voir ce monde. Et je crois que c'est de l'empêchement et de l'ennui qui a découlé de toutes ces années protégées quelque part sous cloche que je n'ai fait que ça, aller vers l'inconnu et aller parler aux inconnus. Donc j'ai fait cette école, mais bon.
Sur combien d'années du coup ?
5 ans. J'ai eu un accident de voiture à 20 ans qui a été un gros déclic, donc 2 ans après avoir commencé, où je me suis vraiment dit que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Même si c'était très sympa, hein, je faisais beaucoup la fête, je faisais partie d'assaut, j'avais plein de potes, c'était chouette, mais je me suis dit, t'as remis tes projets à plus tard, et c'était ma première prise de conscience de l'urgence à se réaliser. On nous projette toujours une espérance de vie telle qu'on a l'impression qu'on a le temps. Et à 20 ans, j'avais jamais ressenti l'idée de la mortalité, de la finitude. Et cet accident, ça a été génial quelque part parce que ça m'a donné un énorme coup de pied aux fesses. Moi, je me suis dit, tu n'es pas à la bonne place. Si aujourd'hui tu meurs, tu n'as vraiment rien fait de ce que tu avais envie de mettre en place. Du coup, j'ai fini les études pour rassurer ma famille en haut. Mais je l'ai fini de façon... à ma façon, quoi. Je suis partie un an aux Philippines, j'ai travaillé dans une prison pour enfants là-bas. Ensuite, j'ai fait un stage pour Solidarité Sida pendant un an. Bon, j'ai pas fait du commerce dans le sens où on l'entend. Et surtout, après, j'en ai jamais fait. Enfin, j'ai vraiment commencé à devenir inventeuse d'histoires vraies après.
Qu'est-ce qui te dérangeait dans la vie qu'on nous présente de trouver un métier qu'on garde plusieurs années dans une entreprise? Pourquoi toi, ça collait pas avec qui tu es?
Bon, je crois qu'il y a des gens qui sont des verticaux, qui aiment bien creuser, avoir une sécurité, un ancrage assez fort. Moi, j'adore changer. C'est pas un choix, en fait. C'est une question de personnalité. Je suis brune et j'aime le changement, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça. Et puis surtout, je savais ce que c'était ma vocation. Je dis pas que j'aurais pas été heureuse dans ces métiers-là. Je pense que tu peux toujours trouver une forme d'épanouissement dans un peu n'importe quoi. Si tu as du sens derrière, si tu travailles avec des gens que t'admires, que tu respectes, qui sont drôles. Il y a plein de façons de considérer le travail. Parce que le travail, c'est une fin ou un moyen. Moi, j'avais envie d'en faire une fin. Et j'ai toujours eu à cœur de réaliser des choses et je savais dans quel type de choses je voulais faire. Donc, ça aurait été pour moi une forme de non-respect de l'enfant que j'étais, pour le coup, et de la personne que je suis, que de ne pas écouter cette intuition. De c'est ça que tu dois essayer de faire. Parce que il avait un peu raison, le conseiller d'orientation. C'était quand même un métier compliqué à construire. Ça m'a pris des années avant d'en vivre, avant que ce soit accepté, ce côté polymorphe, polyvalent.
Mmh. Oui, parce que tu parles d'un métier, mais en réalité, tu voulais à la fois être chanteuse, écrivaine, photographe. Qu'est-ce que tu as choisi en premier, en fait? Est-ce que tu t'es dit, je vais tout faire d'un coup? Est-ce que je vais commencer déjà par bien développer la photographie et après pour chanter on verra? Comment t'as pris tes rêves en fait, un par un ou tous en même temps, go?
Par projet, j'ai envie de dire, ouais. Parce que pour moi tout ça c'est la même chose en fait, c'est raconter une histoire à partir du réel. Moi ça me passionne le réel, mais je veux garder une marge d'interprétation. De toute façon, je crois qu'on en a toujours une. Je parle souvent de ça, de la différence entre la fiction et le réel. On veut toujours séparer les deux, mais ça n'existe pas. Cette barrière, elle est vraiment hyper poreuse. Même si tu essaies d'être le plus objectif possible, tu choisis toujours un mot plutôt qu'un autre, un angle plutôt qu'un autre. Et c'est déjà pas le réel. C'est ta vision du réel. Et inversement, quand tu fais de la fiction, tu t'inspires forcément de choses déjà ressenties pour que les gens s'identifient. Moi, j'assume ce côté-là, c'est documentaire. Mais ensuite, je mets en scène l'image, par exemple, en photo ou... Dans l'écrit, pareil, je choisis une forme de jeu, de mise en scène, c'est important. Et j'ai commencé par aller chercher l'inspiration ailleurs, un peu comme ce que tu fais finalement. Après mes études, je suis partie 14 mois faire un tour du monde avec une copine. Et on est allé rencontrer des femmes de notre âge qui réalisent des projets dans des situations compliquées. Mmh. En se disant, si elles y arrivent, bon, on n'a aucune excuse. Et ça, c'était le début.
81 femmes de 25 ans, c'est ça?
Ouais, 81 femmes nées en 81, ça y est. C'était il y a longtemps, du coup, puisque je viens de fêter mes 40. Ça fait mal. Mais c'était intéressant. Et puis au retour, par contre, je me suis dit, mais comment j'en fais un métier? J'ai commencé à faire des conférences sur ce voyage et sur ces parcours de femmes. J'ai écrit un livre. Mais en fait, entre écrire un livre et être écrivaine, en tout cas en vivre, bah, y a un écart monumental. Où j'étais totalement ignorante de ce qu'était ce métier, de la surproduction littéraire par rapport au lecteur, du fait que c'était vraiment pas facile d'en vivre, et très rare en fait. Il y a très très peu d'auteurs qui en vivent, d'autrices. Et puis ça, c'est ça, c'est une question de persévérance. C'est des pierres que tu poses sur une carrière, sur une construction, c'est une forme de crédibilité. On te fait de plus en plus confiance, et parce que tu as écrit ces livres, parce que tu as été édité, ensuite, on t'appelle pour d'autres projets et il y a un côté amoncellement comme ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est très facile. Et en ça, je trouve ça génial de vieillir. Tu fais la même chose, mais tout est plus simple.
Et alors, suite à ce voyage où tu as traversé 20 pays à la rencontre de ces 81 femmes, quel est le point commun que tu as retrouvé parmi toutes ces femmes?
C'est le fait de ne pas être maîtresse de tout, de subir beaucoup de contraintes, mais de se concentrer seulement sur sa marge de pouvoir. elles doivent accepter plein de choses. Elles doivent accepter d'être nées dans un bidonville, d'avoir un handicap, d'être en prison. Bon, y a plein de choses sur lesquelles elles n'ont pas la main. Mais elles se concentrent sur leur petite marge de liberté et c'est celle-ci qu'elles utilisent pour se réaliser et réaliser des projets. Et je me suis dit que ça, c'était un bel enseignement et que je continue d'approfondir. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même des lignes directrices, peut-être pas consciemment, mais dans ma carrière et dans mon travail. Et celle de la contrainte est assez forte. Je viens de faire un projet qui finalement se rapproche assez fort de 81 femmes sur les artistes empêchés. Donc là, c'était la question vraiment des artistes. Ça s'appelait Voix, enfin ça s'appelle Voix, le projet. Et je suis allée dans des pays où il n'y a pas grand-chose pour s'exprimer en tant qu'artiste. Il y a des censures politiques, religieuses, économiques ou des difficultés géographiques. Et pareil, ces artistes-là ont en commun de dire « c'est parce que c'est dur que c'est nécessaire » et ils viennent des résistants et finalement la difficulté les inspire. Ils trouvent des contournements, c'est des petites déviations, des issues de secours. Et ils ont ça en commun avec ces 81 femmes. Ouais.
Qu'est-ce qui te plaît dans l'idée de raconter des histoires justement ? En quoi ça fait évoluer une société ? Raconter des histoires.
J'espère que ça aide à comprendre des choses. J'en parlais ce matin au téléphone avec une autrice. Je travaille en prison pas mal et ça m'intéresse de comprendre comment on en vient à se radicaliser, par exemple. Mmh. Et il y a des gens qui me reprochent ça en disant « Oui, mais toi, tu trouves des excuses aux gens. Tu mets tout sur le dos de la société, par exemple, sur le thème de la radicalité. » Ce qui n'est pas vrai. Hein. Juste, j'interroge. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un Français pure souche d'origine athée devient radicalisé, se convertit à 25 ans et à 29 a pour objectif de mourir en martyr. C'est un des gars avec qui j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, par exemple. Ça m'interroge sur notre capacité sociale à intégrer cette personne qui s'est sentie tellement exclue, qui n'a jamais trouvé sa place, que son idéal, c'est de mourir à 29 ans parce qu'à 25, il a trouvé une sorte de famille spirituelle, j'en sais rien. Il se trompe de combat, bien sûr. Mais je pense qu'essayer de comprendre les gens et des parcours qui ne sont pas les tiens et des visions qui ne sont pas les tiennes, ça permet de ne pas être manichéen, de ne pas considérer qu'il y a les bons et les gentils, qu'il y a les bonnes voies et les mauvaises voies. Ça m'intéresse en tout cas de comprendre qu'il y a toujours des nuances et c'est ce que j'essaie de faire dans ce travail. C'est aussi mettre en lumière des gens qui sont un peu éloignés de la culture parfois, qui ont des choses à raconter. Bon, je ne parle pas de lui en l'occurrence, mais dans tous les autres boulots que je fais, puisqu'aujourd'hui je fais beaucoup d'actions sociales ou culturelles avec ce qu'on appelle des publics empêchés, donc des gens qui vivent dans des cités, qui sont peut-être un peu exclus ou des réfugiés. Enfin, en tout cas, je trouve intéressant de mettre des lumières sur des personnalités, sur des aspects de la société que peut-être on ne regarde pas souvent ou pas comme ça.
Et tu dis que tous nous prouvent que le bonheur ne répond finalement à aucune règle. En quoi est-ce que nous sommes tous les auteurs de notre propre vie ?
C'est super dur de répondre, c'est très philosophique.
Oui, j'ai beaucoup de questions philosophiques.
On est les auteurs de notre propre vie parce qu'on décide chaque jour quelle porte on ouvre. En gros, à la naissance, on nous dit voilà ta vie, qu'est-ce que tu vas en faire ? Et puis, il y a tellement de possibilités, c'est incroyable. C'est comme le livre dont vous êtes le héros, mais tu peux... c'est infini comme possibilité. On nous propose un modèle très conformiste au fond, au départ, qui n'a pas de sens. Parce que s'il y avait une recette, tout le monde l'appliquerait. Et les crises, pour le coup, les crises de la quarantaine que je vois autour de moi, puisque j'en suis un peu à cet âge-là phare, c'est des gens qui ont tout bien fait dans les règles, qui ont trouvé un boulot bien sérieux, stable, qui ont de l'argent, qui ont peut-être fait des enfants, qui sont en couple, et qui se disent « je suis quand même pas heureux, alors qu'est-ce qui cloche ? J'ai coché toutes les cases. » Je crois que les seules cases qu'on peut cocher, c'est celles qui nous ressemblent, mais c'est pas si simple. Parce que dès que ce que tu veux, ce à quoi t'aspires, ne correspond pas à l'idée générale, il faut se battre un peu plus. Et parfois, c'est plus facile d'être consensuel. Après, je dis ça, c'est facile. Hein. Moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai une espèce de lien à la liberté indéfectible. Je ne pourrais pas me conformer à autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Mais...
C'est quoi pour toi être libre ?
C'est garder une forme... d'autorisation à l'échec. C'est rester dans l'expérimentation. Quand on est gosse, on a le droit d'essayer plein de trucs et de rater, et c'est pas grave. Adulte, on est censé être performant et être spécialiste et hyper bien réaliser un truc. Moi, j'adore ne pas savoir faire. Et j'ai souvent même ce sentiment d'imposture que je dois dépasser, parce que si on se pose la question de pourquoi moi plutôt qu'une autre ou qu'un autre, la réponse, c'est toujours non, en fait, il y a quelqu'un de mieux que toi, le fais pas. Je crois qu'il faut se dire, voilà, je le fais, c'est moi ou ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais j'essaye, j'ai pas grand-chose à perdre. et puis écouter les signes. Je sais pas si c'est ça le mot, moi je suis pas croyante ou quoi, mais j'essaie de saisir les petits indices de la vie. Je voulais pas vraiment devenir photographe, par exemple. Je suis devenue photographe par un concours de circonstances incroyable. J'avais idée de faire un livre sur mes ex, un livre très conceptuel. Au début, on écrit souvent sur soi. Aujourd'hui, je parle beaucoup, je travaille beaucoup avec les autres, mais j'ai commencé par faire quasiment que des projets autobiographiques. Et j'avais eu l'idée de retrouver les 24 personnes que j'avais aimées depuis l'enfance, dans le sens large de l'amour. Mon père, un amoureux d'enfance, tout ça. Et pour ce livre, je voulais faire une photo de chaque personne à l'heure du souvenir fort que j'avais gardé. Je ne savais pas faire de photos. Moi, à l'époque, je faisais ça avec un appareil compact en mode automatique. Et pour une de ces photos, je voulais aller dans mon école primaire. Et je suis allée pendant les vacances et je l'ai trouvée saccagée à l'abandon. Elle avait été squattée. Il y avait des arbres au milieu du bitume. Et j'ai commencé à photographier ce qu'elle était devenue. Et plein de souvenirs d'enfance me sont revenus. C'était à la fois triste et en même temps léger. Je voyais ces tags qui étaient apparus sur le mur et je me souvenais que j'avais appris à lire là. Je passais dans les toilettes à la turque et je me souvenais que j'avais jamais compris dans quel sens me mettre. Que j'étais la fille nulle en sport qu'on choisissait jamais dans les équipes. Et je revoyais ce terrain de basket où il y avait les arbres qui avaient fait exploser le goudron. Et c'était très fort. Et j'ai commencé à faire des photos de cet endroit-là et à écrire des tout petits textes, comme des haïkus qui rappellent les souvenirs d'enfance pour distinguer le présent et le souvenir. Et ça, ça a eu un prix photo. J'ai fait un livre à la Martinière de photographie. Alors, je ne savais pas photographier, vraiment. Quand on me demandait, on me posait des questions techniques, je disais, ah non, mais on s'en fout, non, de la technique. La vérité, c'est que je ne savais pas maîtriser un appareil photo. Et en même temps, comme ce monde-là m'a pas mal ouvert les bras, c'était une sorte de destin, ou je sais pas. J'ai ensuite pris des cours de photo, j'ai fait les Gobelins en formation continue pour me sentir légitime. Mais je crois que si je m'étais posé la question à ce moment-là, j'aurais pas été plus loin. Et aujourd'hui, c'est 80% de mon temps.
Qu'est-ce qui faisait que tu ne te sentais pas légitime? Juste le manque de formation?
Bah ouais, techniquement, je savais pas faire. Ça n'empêche pas, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très techniques. Je le dis souvent en atelier aujourd'hui. Hein, y a des gens qui sont d'excellents faiseurs, d'excellents artisans, au fond, mais qui n'ont pas un regard qui va montrer les choses d'une manière surprenante. Ça ne peut pas être un handicap. Enfin, ça ne peut pas être déterminant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas la technique que tu ne peux pas faire d'images qui racontent des choses. Mais maîtriser la technique, ça t'ouvre quand même un espace de liberté supérieure. Tu es plus en maîtrise.
Alors moi, j'ai des questions par rapport à ce fameux premier livre que tu as fait avec tous tes amoureux.
C'est mon deuxième, ça.
C'est ton deuxième ?
Le premier, c'était le récit sur le tour du monde.
Ah oui, tu vois, je croyais que c'était le premier. Ok, j'ai loupé une info, du coup. Qu'est-ce que toutes ces expériences amoureuses que tu as pu avoir, elles t'ont appris sur ce qu'est l'amour, finalement ?
Je ne sais pas si je peux tirer des conclusions, puisque je n'arrête pas de changer d'avis sur ce sujet, quand même. Il y a toutes les étapes de la vie font que tu n'as jamais la même réponse à 10, à 15, à 30, 40, 80, j'imagine. À l'époque, je me disais que peu importe la durée, on pouvait être marqué par des moments. Et j'en suis toujours assez convaincue. On peut se souvenir toute notre vie d'histoires d'amour très fugaces ou unilatérales ou des choses comme ça. L'époque a ça de génial, que les questions sont plus facilement posées. Je trouve ça génial. Quand moi, j'étais au lycée, si tu disais que tu étais homo, c'était vraiment un coming out, une étiquette posée à jamais.
Tu étais classée, quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, ce que je trouve génial, ce que je travaille souvent avec des jeunes dans des projets, c'est cette fluidité, cette liberté de parole qui a quand même vraiment changé. Le travail des féministes d'aujourd'hui est génial. Enfin, ça fait tellement bouger les lignes. J'étais dans un lycée pro à Saint-Denis il n'y a pas longtemps pour un projet sur la visibilité ou plutôt l'invisibilité des femmes dans l'espace public. Et dans cette classe, qui est donc une classe pro, de lycée pro dans une cité, il y avait un trans, une personne non-binaire, une féministe, une nana habillée en manga, et puis une fille un peu nympho qui s'appelle les Terminales, et une femme voilée, et tout le monde cohabitait, et c'était dit, et c'était ok, et c'était pas pour la vie. Voilà, et où ça pouvait l'être, mais en tout cas je trouve que vraiment il y a une liberté, une fluidité qu'on n'avait pas de parole et d'acte. Je trouve que c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Moi, je suis très reconnaissante à la génération de maintenant, à la génération qui vient aussi peut-être, des pas qu'elles vont faire gagner aux suivantes.
Et alors, qu'est-ce que tes premiers amours t'ont apporté? En quoi ça a contribué à la personne que tu es aujourd'hui?
Eh bien, j'étais vraiment une loseuse hein, au début, moi. Donc, je sais pas, peut-être la persévérance. J'étais quand même la fille au collège qui payait un gars pour m'asseoir à côté de lui.
Non.
Si, donc c'était pas très glorieux, quoi. Ça n'a pas commencé très, très bien. Non, les premiers, c'était pas génial. Et puis, je me suis quand même rendu compte très vite, si on parle d'amour, hein, du côté moutonnier de l'amour et de la société en général. Hein, mais donc, au collège, j'étais moi la première de la classe. Ça marchait pas du tout. Hein, donc, je payais ce type 10 francs de l'heure à l'époque. Hein, j'ai quand même grandi au temps des francs. Pour m'asseoir à côté de lui, j'ai piqué du fric dans le porte-monnaie de ma mère pour m'asseoir à côté de ce gars avec qui il s'est jamais rien passé. Bref. Ça, c'était au début du collège. En troisième, je pars en Italie dans un voyage scolaire. Et là, ma correspondante est plus âgée que moi. Et je sors avec un Italien de 18 ans, alors que moi j'ai des bagues et je suis vraiment pas au top, top, top de mon physique. Hein. Et lui vient m'embrasser devant le quart de départ, devant tout le collège. Il me donne une rose, une lettre et il m'emballe devant toutes les classes. Et d'un coup, tout le monde voulait sortir avec moi. C'est ridicule. C'est vraiment ce côté... c'est le collège, quoi. C'est tellement dur parce que à cette époque-là, tout le monde veut être comme tout le monde. L'enjeu au collège, c'est ne pas se distinguer, essayer d'être accepté par le groupe. Et puis après, on passe tout le reste de notre vie à vouloir être spécial. Et en fait, c'est trop tard, on est hyper formaté. Et moi, j'ai toujours ce petit sentiment de revanche, tu vois. Et c'est sûr que les cool-cool du collège ne sont pas forcément les cool-cool d'aujourd'hui. Parce qu'ils étaient justement tout à fait dans la norme et ils respectaient tous les codes. Et moi, j'ai pas mal de je me souviens de la fille qui avait le plus gros succès en cinquième, qui avait redoublé deux fois. Et bon, bah aujourd'hui, ça me fait pas tout à fait rêver, quoi, sa vie.
Et alors, qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à la Sandra qui avait 20 ans ?
Continue. Je crois que je suis pas très persévérante. C'est-à-dire que si c'est pénible, j'arrête. Il y a des gens qui ont le fantasme de l'artiste maudit, du côté « Ah, mais il faut souffrir un peu pour y arriver ». Un peu, oui, c'est sûr, il y a des efforts et ça ne marche pas tout de suite et les échecs, ça nourrit, et c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours eu à cœur de changer quand le bénéfice joie-souffrance était déséquilibré. Quand je sentais que c'était plus pénible que joyeux, j'arrêtais. C'est ce qui s'est passé pour la musique, par exemple. Au début, j'étais chanteuse, j'ai commencé vraiment, après le tour du monde, par faire surtout de la musique. J'étais autrice-compositrice et puis je jouais à Paris en résidence dans un théâtre avec des musiciens. J'étais super contente. Mais je me souviendrai toujours de après 6 mois de résidence dans un théâtre, on reçoit les résultats, les chiffres. Et le mail du directeur commence par « Bravo, c'est le meilleur résultat de tous nos groupes ». Et là, j'ouvre le document. Et entre ce que je lui dois, parce qu'il y a des minimums garantis de salles énormes à Paris, et ce qu'il me doit, ça fait zéro. Et je lui dis « C'est quand même le seul métier au monde ». Où on te félicite de gagner zéro. C'est-à-dire que j'ai payé personne, moi je ne me suis pas payée, ni mes musiciens. Ça fait 6 mois qu'on joue pour rien. Et il me dit oui, mais c'est une vitrine, Paris, vous savez, cet endroit et tout. Je dis ouais, super, mais je montais sur scène avec vraiment la pression de me demander est-ce qu'il y aura assez de gens dans la salle, est-ce qu'il y aura des journalistes pour parler du spectacle, pour remplir la semaine prochaine, est-ce que je vais pouvoir payer un peu mes musiciens parce que je les fais bosser comme des malades, j'autoproduisais tout. J'ai perdu 11 kilos en 6 mois et je me suis dit arrête, enfin, fais pas ça. C'est soit je retrouve le plaisir, la joie initiale de faire de la musique, soit je fais autre chose. Donc j'ai recommencé. Je joue toujours, mais j'ai aucun objectif pro quelque part. Voilà, je le fais vraiment pour le plaisir ou pour le projet, mais parce que c'était plus agréable, quoi.
Et t'as jamais eu peur des fins ? T'as toujours eu cette faculté d'accueillir l'inconnu sans trop te soucier de ce qui allait se passer ?
Ouais, moi j'adore. Mais ça, c'est des trucs de tempérament. Mmh. J'adore ne pas savoir. C'est marrant parce que j'ai une sœur qui est tout l'inverse. Elle a toujours voulu vivre près de chez les parents, être instite. Elle savait, sa vie était écrite. Elle sait presque où elle va aller en vacances l'été avant. Enfin, elle programme tout très en avance. Moi, si je sais, ça m'angoisse. Quand on me propose un projet pour dans 6 mois, j'ai envie de dire je sais pas. Rappelle-moi dans 5 mois. Mmh. Vraiment, j'aime pas ça. C'est des tempéraments... En fait, j'aime rester libre. Et si tout est prévu, booké, réservé, je me sens enchaînée et pas prête à accepter l'opportunité, peut-être, ou l'envie qui arriverait à ce moment-là. Après, t'es obligée parfois de projeter. Et puis là, le fait d'avoir... Moi, j'ai eu 2 enfants en bas âge et ça change beaucoup de choses. Moi, j'ai eu un mal fou à me dire je vais devoir tous les jours les emmener à l'école pour 8h30 le matin, alors que moi, je suis insomniaque. Rien que l'idée de me lever, c'est une catastrophe à heure fixe. Parfois je peux, mais parfois non. Et c'était une petite révolution personnelle, ça, sur la routine, parce qu'on t'impose une routine. les enfants et la société t'imposent ça. Ça faisait pas mal d'années que je l'avais plus et ça a été assez dur à encaisser.
Pourquoi tu dors mal la nuit ? Enfin, je sais pas si t'as l'explication ou si tu veux en parler, mais est-ce que c'est que tu te poses des questions ? Est-ce que c'est que juste t'as pas envie ?
Ben, avant j'étais très libre de faire ce que je voulais, donc je travaillais parfois la nuit. Je ne me définissais pas du tout comme insomniaque puisque c'était pas grave en fait. Parfois je sortais, parfois j'écrivais la nuit, parfois et puis je dormais le matin. C'était pas du tout un sujet. Et c'est depuis que j'ai des enfants que je crois que j'ai cette pression du réveil, cette obligation de résultat quelque part. À 7h30, je dois être opérationnelle, qui fait que je me mets une pression. Si je vois qu'il est 1h et que je ne me suis pas couchée, je dis « Ah là là, dépêche-toi, est-ce que dans 6h, tu vas te lever ?» Et dès que tu mets un enjeu sur le sommeil, c'est compliqué. Moi, ce n'est pas une angoisse, je ne suis pas en train de ressasser des choses. Mmh. C'est plutôt ça.
Plus que tu suis ton propre rythme, il y a des fois, tu as envie de travailler plus la nuit, tu travailles la nuit et tu...
Et là, je ne peux plus vraiment. Ouais. Et puis, c'est aussi que j'ai souvent des idées la nuit et j'ai toujours adoré ça. Écrire, me réveiller à 3h du mat, avoir une idée, l'écrire. Et aujourd'hui, je ne peux plus vraiment ou plus pareil. Donc, ça enlève le côté impro. Ou alors, tu peux, mais tu dors 3h par nuit, quoi, ce que je supporte assez mal.
Mmh. En quoi ça te libère d'écrire ?
Écrire ou dire ? Parce que je garde assez peu de choses. Y a des gens qui cultivent leur jardin intérieur... J'en fais quasiment tout le temps un espace public et c'est peut-être une névrose aussi. Hein. Mais j'écris, je crois, pour pas garder de charge. J'écris aussi parce que j'ai peur d'oublier, parce qu'à force de pas dormir, parce que quand même, je sors quand même beaucoup et j'ai une vie assez intense, je veux dire, en termes d'emploi du temps. J'ai vraiment plus trop de mémoire. Et du coup, j'écris aussi pour ça, tout de suite, pour graver les choses. Je collecte beaucoup les souvenirs, j'aime bien. J'écris des journaux intimes, par exemple pour mes enfants, j'en écris un pour chacun, pour qu'ils sachent ce qu'ils auront oublié, ce qu'ils ne connaîtront pas. J'écris pour moi, j'ai toujours des carnets, j'en ai plein, je ne les relis jamais. C'est des espaces de liberté ça. Mes carnets à moi, c'est des espaces où parfois je note des choses très pratiques, des idées de projets, des choses à faire, des choses comme ça. Parfois c'est des textes de chansons, des textes tout courts et je les relis assez peu. Si vraiment, sur le coup, je me dis « Ah, ça, il faut en faire quelque chose », je le transforme, je le tape, je ne sais pas quoi. Mais ces carnets, c'est des choses que je ne fais jamais lire à personne et que je ne relis pas non plus pour ne pas avoir de pression. J'ai le droit d'écrire n'importe quoi dedans, quoi. C'est pas grave. C'est pas obligé d'être cohérent, c'est pas obligé d'être lisible. C'est pas grave.
Et t'écris tous les jours ?
Non. Non, il y a eu des périodes où j'écrivais tous les jours. Quand j'écrivais par exemple, mon quatrième livre, c'était un roman, où là, je me suis vraiment astreinte à une discipline, une régularité. Mais j'ai eu un petit traumatisme à la sortie de ce livre. Je me suis dit que c'était pas pour moi, en tout cas pas maintenant, pour moi, l'écriture au long cours, le roman. J'ai trouvé ça trop long, trop solitaire. Et j'aime vraiment la rencontre, l'expérience, le jeu. Et être face à mon ordi pendant 14 mois, pour en plus à la fin, qu'il y ait une forme d'indifférence. Parce que tu vends 2000 ou 3000 exemplaires de ton bouquin, c'est très confidentiel. Tu fais quelques salons du livre, mais bon, tu te demandes pourquoi avoir consacré autant de temps. Il y a des gens qui adorent l'écriture pour l'écriture. Moi, c'est un moyen parmi d'autres. J'ai toujours écrit, mais je n'ai pas ce besoin viscéral qu'ont d'autres autrices-auteurs que je connais qui doivent écrire chaque jour. Pour moi, la photo est aussi une écriture. C'est une façon de raconter. Et aujourd'hui, elle me correspond mieux parce que c'est plus ludique, c'est plus rapide, c'est plus interactif. C'est des percées dans des mondes que je connais pas. J'adore mener des comme c'est comme des petites enquêtes sociales quelque part. Tu connais pas du tout les gens se confient à toi. Il y a une question de confiance. Ensuite, comment est-ce que ils acceptent d'être regardés par toi, d'être mis en scène? Comment est-ce qu'ils acceptent d'être mis en scène puisque mes images sont souvent posées. Et puis ensuite d'être montré au public, c'est passionnant. Je trouve que c'est un peu de psychologie, c'est de l'impro, c'est de l'esthétique. J'adore. C'est une découverte, mais peut-être que dans 3 ans j'en aurai complètement marre et je ferai autre chose. Mais pour l'heure, c'est mon média, je le sens.
Mais qu'est-ce qui te plaît dans cette idée de figer un moment, que ce soit capter un regard, capter un paysage ? Est-ce que c'est pour ne pas oublier ou pour se souvenir ?
Je fais assez peu de photos de réel tel qu'il est. C'est souvent une extrapolation du réel. Je ne suis pas une photographe de rue, par exemple. Je n'ai pas un appareil sur moi tout le temps. C'est plutôt à partir d'un récit, j'imagine quelque chose et ensuite je le compose, plutôt comme un tableau. Ce n'est pas une photographie de l'instant. Ça peut m'arriver. J'ai fait des photos parfois, je ne sais pas, parce qu'en bas de chez moi, il y avait des gars qui avaient pété une bouche d'incendie et c'était très beau de voir tous ces ados de cité d'un coup s'amuser dans une bouche d'incendie qui ressemblait à un geyser. J'ai fait des photos comme ça ou quelques photos de presse sur des événements spécifiques. Mais l'ADN de ma photographie, ce n'est pas ça. C'est plutôt une manière de raconter l'histoire comme peut-être les gens ne la raconteraient pas eux-mêmes. Une interprétation de ce qu'ils disent, quoi.
Tu dis « je change souvent de lunettes pour ne pas m'habituer à la netteté, pour retrouver le flou ». Qu'est-ce que ça veut dire que de retrouver le flou ?
Ben, pas savoir faire. Je m'ennuie si je sais trop bien faire. Ouais. J'aime pas trop reproduire des projets que j'ai déjà faits. Ça m'arrive bien sûr, mais j'adore être une débutante à nouveau, recommencer quelque chose. Et puis pas savoir quel sera le prochain projet.
T'aimes bien les débuts et t'as pas peur des fins.
Ça dépend, mais c'est dur de faire des généralités quand même. Ouais. Parce que, dans les grandes lignes, oui, c'est ça. Après, ça m'arrive d'avoir peur des fins.
Être vieux sans être adulte, ça t'évoque quoi cette phrase ?
Bah, c'est une des phrases de Brel que je préfère. je l'expérimente à fond aujourd'hui parce que donc je viens d'avoir 40 ans, ce qui me semble très adulte comme âge. Et quand je projetais ce que c'était avoir 40 ans quand j'en avais 20, ça me semblait super vieux, super installé, un peu chiant, quoi. Et en fait, pas du tout. Vraiment, je viens de faire, 96 heures de fête d'anniversaire avec des gens qui dansent toujours autant. Peut-être que c'est générationnel, hein, que nos parents étaient plus sérieux. En tout cas, les miens l'étaient, clairement. Moi, je trouve pour l'heure super de vieillir parce que j'ai toujours ces mêmes envies, ces mêmes idées, ces mêmes projets. Et plus de crédibilité, plus de facilité à les réaliser. On me fait plus confiance, juste parce que je suis plus vieille. Ça, c'est assez magique. Et j'ai la chance de ne pas faire un métier d'image, quelque part. Enfin, c'est un peu paradoxal quand t'es photographe, mais mon conjoint d'aujourd'hui est comédien. Et on parle souvent de ça, de quand t'es comédien, comédienne ou chanteuse, parce que j'ai voulu être à un moment. Quand on juge ton travail, on te juge toi. On juge ton physique, on juge ta façon de bouger, de parler. C'est des choses que tu prends pour toi. Dans le métier que j'ai aujourd'hui, que ce soit à l'écriture de livres ou la photo, on juge ce que tu produis. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de vivre avec des métiers comme ça qu'avec des métiers où c'est intrinsèque, quoi. C'était vraiment, c'est lié à toi. Et puis sur la question de vieillir en tant que femme aussi, ça me révolte toujours ce côté, tout le monde a un truc à dire sur la vieillesse, soit on est négligé parce qu'on fait rien et qu'on laisse ses cheveux gris et qu'on laisse des rides, soit on est complètement à côté de la plaque parce qu'on se fait botoxer et qu'on ressemble à une poupée sans âme. Mais quoi qu'il arrive, la société a toujours un jugement sur comment est-ce que la femme vieillit. Donc moi, ce sera peut-être ça, hein, je ne sais pas, mais mes prochains sujets, je vais essayer d'appliquer ça, de vieillir sans ternir, en tout cas sans renoncer à une forme d'insouciance et de légèreté, même si bien sûr, c'est plus dur à garder quand tu as des responsabilités, parce que c'est vrai que le fait de devenir parent, par exemple, ça te rajoute une forme de responsabilité. Je ne peux pas dire, je me barre un an autour du monde toute seule, je pars encore, hein, je suis de ces femmes qui continuent, quoi. Mais c'est aménagé. Je pars moins longtemps, je reviens entre deux.
Et alors, ça passe vite, de nos 20 ans à nos 40 ans.
À fond, mais j'ai adoré. Moi, si ça s'arrêtait là, je me dirais que j'ai une chance de fou. Ça m'irait, quoi. J'ai déjà eu plein de vies en une. Je ne sais pas ce que réserve la suite, mais je re-signe 100% pour ça. On a la chance quand même d'être né dans un côté du monde où on a plus de facilité qu'ailleurs. Il faut le dire, hein, on n'a rien fait pour être né blanche en France dans ces années-là. C'est quand même une injustice et une chance monstrueuse.
Mais qu'est-ce qui fait finalement que tu gardes cette âme d'enfant même à 40 ans ?
Moi, je ne sais pas. je crois que ce n'est pas si c'est moi qui peux répondre à ça. J'en sais rien, ce n'est pas un choix.
C'est en toi, quoi.
Ouais. Je sais pas, ouais, j'ai envie que la vie soit marrante, quoi. Je me dis ça dure pas non plus éternellement. Je comprends pas qu'on en fasse une sorte d'accumulation de devoirs. c'est la seule chose qu'on puisse gagner. On sait, enfin, moi, je crois qu'à la fin, il n'y a rien, ou je sais pas, en tout cas, j'ai pas un espoir de mieux après la mort. Donc, je me dis que la seule chose dont je suis certaine, c'est maintenant, et à la fin, on perd tous, enfin, en tout cas, on meurt tous, je crois, hein, pour l'heure. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie, si ce n'est réussir des moments? J'essaie de faire ça, quoi, de réussir une somme de moments et peut-être d'aider d'autres à en faire autant, quoi, à ce que ce soit assez, assez lumineux et pétillant.
J'ai une dernière petite question, la fameuse question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui? Ça peut être plusieurs conseils. Quels conseils?
Je crois qu'il faut être insolent un peu. Pas être trop docile, pas trop écouter. Essayer de remettre les choses en cause. C'est aussi une manière de garder ses libertés. Alors, se construire tout le temps en opposition, c'est pas très constructif non plus, mais en tout cas, garder ses marges d'impertinence. Je pense aussi à cette autre phrase de Brel que j'adore, qui dit le monde sommeille par manque d'imprudence. Et je crois que c'est vrai, on est un peu...
On est trop prudent.
Ben, y a des côtés où y a de plus en plus de liberté, de révolte, de fluidité, ce que je disais un peu avant, de prise de conscience sur la diversité, sur le féminisme, sur l'écologie. Il y a des choses qui bougent dans le bon sens, c'est super. Mais il y a aussi un côté plus sage, plus linéaire, on prend moins de risques, on est plus consensuel. Bon, c'est super hein, d'être conscient et engagé, il y a des choses merveilleuses, mais je crois qu'il faut aussi cultiver l'insouciance, parfois la légèreté, pas toujours être parfait, quoi. Voilà, s'autoriser les pas de côté, les imprudences et laisser la place à la surprise.
Merci beaucoup Sandra, on va se terminer sur ces jolis mots. Merci pour ce moment.
Mais avec joie.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.